Voilà.
Yeah. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Bienvenue si vous nous rejoignez. Quelles énergies demain dans les pays du Sud, alors que plus d'un milliard d'habitants de notre planète n'ont toujours pas accès à l'électricité, pourtant vue comme le moteur du développement. Faut-il miser sur les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien et d'autres, construire de nouveaux barrages quand on sait par exemple que le potentiel hydroélectrique du continent africain est largement sous-exploité, et comment anticiper l'après-pétrole puisque nous aurons bientôt épuisé les réserves de cet or noir dont nous sommes devenus dépendants. Face au changement climatique, il est plus qu'urgent de trouver des solutions de rechange. Pour en parler, j'accueille avec plaisir le physicien Pierre Papon, spécialiste de physique thermique et ancien directeur général du CNRS, qui signe le livre 2050, quelles énergies pour nos enfants, aux éditions Le Pommier. Et avec lui, la consultante en écologie industrielle Geneviève Ferron-Creuset, qui publie quant à elle le livre Le crépuscule fossile chez Stock.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous évoquez, Pierre Papon, dans votre livre, l'inéquité énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est un grand défi pour la planète. Dans mon livre, j'explicite trois défis importants pour l'énergie auxquels on est confronté. Le premier, c'est l'inéquité énergétique, c'est-à-dire, en quelque sorte, la sous-consommation d'énergie par les pays du Sud, en particulier l'Afrique. Vous l'avez dit, un milliard d'habitants de la planète n'a pas l'électricité. En Afrique subsaharienne, à tout le moins, seulement 30% de la population a un accès à l'électricité. Et l'Afrique ne consomme que 3% d'énergie mondiale, alors que sa population, c'est à peu près 15% d'énergie. Et donc, il y a une inéquité considérable dans la consommation d'énergie dans le monde. Et s'agissant des pays du Sud, notamment de l'Afrique, c'est un obstacle au développement et au bien-être, et probablement la source de tensions régionales et internationales.
Et on sait que l'accès équitable aux ressources énergétiques fait partie des objectifs pour le développement durable à l'horizon 2030.
Oui, c'est un des objectifs de l'ONU, que l'ONU a fixé en 2015 pour 2030, hein, comme vous venez de le rappeler.
Geneviève Ferron-Creuset, depuis le début du XXe siècle, le pétrole s'est progressivement substitué au charbon pour devenir indispensable. Et aujourd'hui, vous prédisez un long crépuscule fossile. C'est-à-dire ?
Alors, l'image du crépuscule fossile, c'est une image qui s'impose parce qu'on se rend compte que les crépuscules, c'est souvent des moments flamboyants qui peuvent d'ailleurs paraître très courts et suivis d'une obscurité. Donc, c'est aussi la fin d'un cycle. Alors, le crépuscule fossile, c'est tout simplement cette image dans laquelle on projette deux choses très fortes. C'est que les énergies fossiles, et en particulier le pétrole, sont devenues une carte maîtresse de géopolitique, mais derrière, c'est aussi une dépendance terrible, c'est-à-dire qu'on est complètement shooté au pétrole. Et si vous regardez, même dans ce studio, tout autour de nous, rien n'est fait sans pétrole, hein, que ce soit dans les transports, l'avion dans lequel vous montez votre voiture, mais les pesticides que l'on trouve dans les engrais, c'est aussi du pétrole. Donc, on voit bien qu'il faut passer à autre chose. D'où le terme de crépuscule. Mais passer à autre chose quand on a été aussi dépendant et quand on voit que finalement ce pétrole, c'est la matrice dans laquelle nous avons forgé notre civilisation, eh bien, ça va être très difficile. Et le changement climatique nous impose de rompre avec le primat des énergies fossiles.
Et comment on en est arrivé là ? Comment le pétrole est devenu aussi indispensable, nécessaire à notre fonctionnement, à notre développement ?
Eh bien, tout simplement, le pétrole, c'est une énergie miracle. Le pétrole a une très grande plasticité. Il n'y a pas de gros enjeux technologiques dans l'extraction du pétrole. Il est d'une plasticité extraordinaire parce qu'il permet en fait d'offrir des dérivés à énormément de secteurs industriels connexes. Donc on en trouve absolument partout, dans les textiles, la pharmacie, l'agriculture. Et il pénètre notre quotidien à un coût imbattable. Et donc il a permis à la société de consommation de masse, de se déployer sur la planète entière. Donc voilà pourquoi c'est tout simplement une énergie qui permet de faire tous les plastiques que vous voulez. Donc voilà comment cela s'est diffusé à l'échelle de la planète. C'est une technologie qui n'est pas très très compliqué à répliquer. C'est une ressource qui est facile à extraire, un modèle économique qui a permis à, on va dire, des empires industriels de posséder une rente. Et puis, on a mis, bien sûr, les réserves en coupe réglée pour être sûr d'avoir un accès facile à ces réserves. Et donc, tout l'ordre géopolitique mondial s'est aussi articulé autour du pétrole, de son acheminement. Et voilà pourquoi il est tellement difficile de s'en passer. Et voilà pourquoi le pétrole est aussi un faiseur de rois.
Et justement, le pétrole est présent et exploité dans de nombreux pays du Sud et pas toujours au profit des populations locales.
Non, et ça c'est le grand paradoxe. On dit toujours qu'il y a une malédiction du pétrole. En fait, pour aller très vite, partout où le pétrole constitue la première ressource d'ailleurs de richesse d'un pays, et notamment au Moyen-Orient et en Afrique, eh bien c'est une malédiction parce que la rente est capturée par une oligarchie. Le pétrole repart, toutes les devises qui sont liées aux importations, aux exportations de pétrole, ben, repart finalement sans vraiment améliorer le quotidien des populations. On voit que au Nigeria, qui est quand même le 8e pays exportateur de pétrole, eh bien au Nigeria, si vous voulez avoir, vous voulez avoir de l'essence pour votre voiture, mais il faut faire des heures de queue. Enfin, je veux dire, par là, il y a un dérèglement complet de la chaîne de valeur du pétrole, c'est-à-dire que toute la richesse repart ou profite à des intermédiaires qui captent cette richesse. Et le pétrole, qui est pourtant subventionné, en fait, permet à une poignée de personnes de s'enrichir et tous les autres, eh bien, vraiment peinent à survivre parce qu'au Nigeria, je rappelle quand même qu'une grande partie de la population vit avec moins d'un dollar par jour pour vivre. Donc, vous voyez, un des pays, les plus grands pays pétroliers de la planète et une population qui est complètement au bord de l'asphyxie. Mais c'est vrai aussi pour le Gabon et c'est aussi vrai pour l'Algérie.
Et on sait que le pétrole est aussi une source de conflit, hein, notamment au Nigeria. Vous parlez du Nigeria, Pierre Papon.
Oui, une des raisons de la guerre du Biafra, 67-70, c'était d'ailleurs un conflit larvé entre la France et la Grande-Bretagne dans la région. Le fait que le Biafra était supposé, à juste titre d'ailleurs, une région riche en pétrole. D'ailleurs, le problème que pose Boko Haram dans le nord du Nigeria a en partie une origine, je dirais, de répartition, la répartition de la rente pétrolière inégale entre les habitants du nord du Nigeria qui en sont privés parce que le pétrole se trouve dans le sud et dans le delta. C'est une des raisons parmi d'autres, bien entendu.
Les deux énergies les plus prometteuses aujourd'hui, selon vous, Pierre Papon, sont l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Pourquoi ces deux-là ?
Je citerai, s'agissant de l'Afrique, un rapport qu'a fait en 2015, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, qui faisait ce bilan et celui que dressait Geneviève sur la répartition de la rente ou de la captation de la rente pétrolière. Il faut que l'Afrique se dote en énergie, mais sorte du carbone. Et si on sort du carbone, si je puis dire, il y a quelques solutions possibles. Il y a l'hydraulique qui est sous-exploitée, l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Hein, voilà, pour faire simple, dans la panoplie des énergies du futur.
Et parfois, la débrouille suffit à imaginer, à découvrir de nouvelles façons de produire de l'électricité. Vous avez peut-être entendu parler de ces bouteilles solaires, des bouteilles d'eau en plastique qui sont disposées sur les toits, qui captent en fait les rayons du soleil pour éclairer l'intérieur des maisons. Elles ont été créées avec le soutien d'étudiants de l'Institut de technologie du Massachusetts. Ces bouteilles solaires sont développées à grande échelle aux Philippines par la fondation My Shelter, avec deux avantages. Elles sont faciles à construire et gratuites pour ceux qui les utilisent. Elles éclairent aux Philippines déjà des milliers de foyers. C'est un reportage de Gabriel Kahn.
Il pleut ce matin sur la base militaire de Quezon, à Manille, où une vingtaine de militaires des opérations civiles de l'armée s'affairent autour d'une table avec des bouteilles en plastique vide, de la colle et des morceaux de tôle. Le bruit des coups de marteau couvre presque celui de la pluie.
On va utiliser cela durant les typhons et dans les lieux reculés. Il faut mettre de l'eau dedans. On va mettre un peu de produit chimique dedans et après, quand il sera exposé au soleil, il fera de la lumière improvisée.
Cette idée géniale est née alors que l'équipe de la fondation philippine My Shelter construisait sa première école avec des bouteilles en plastique recyclées. Le président de cette association, Iliac Diaz, tente désormais de populariser son invention aux Philippines à travers sa fondation My Shelter, qui veut dire « mon abri » en anglais. Iliac Diaz.
Au moins 3 millions de personnes aux Philippines n'ont pas accès à l'électricité et 2 à 3 fois plus ne peuvent pas se l'offrir. C'est le pays où l'électricité est la plus chère en Asie et qui a l'un des taux de pauvreté les plus élevés. À l'origine, nous construisons des écoles avec des bouteilles en plastique recyclées. En remplissant ces bouteilles avec de la terre pour construire la structure de l'école, nous nous sommes aperçus que l'intérieur de l'école était très sombre. Nous avons donc tenté d'insérer des bouteilles d'eau entre celles qui étaient remplies de terre. Et nous avons remarqué que cela apportait de la lumière à l'intérieur de l'école durant le jour. Nous avons constaté plus tard qu'une autre personne avait eu la même idée. Cela arrive dans un monde peuplé de milliards de gens qu'une découverte soit faite au même moment par plusieurs personnes. Mais nous avons tenté d'en faire quelque chose d'énorme, de créer un modèle d'entrepreneuriat. Nous avons débuté cela à San Pedro Laguna avec un homme au chômage qui avait des notions de base en menuiserie. Nous lui avons offert des outils ainsi qu'une dizaine de bouteilles pour faire un essai. Il a ainsi commencé à éclairer des maisons. Et les gens ont payé pour ses services. Depuis, cet homme a installé plus de 8000 lampes solaires dans son quartier. Donc l'idée est la suivante. Si on donne la possibilité aux gens de construire ces lampes, de les installer et de faire de l'argent grâce à cela, nous créons une nouvelle activité, un travail écologique qui peut s'étendre dans tout le pays.
Pierre Papon, que pensez-vous de ces bouteilles solaires ?
C'est bien, mais ça résout que partiellement le problème. Hein. Il faut bien quand même quelques kilowattheures. Hein. Une étude de l'ONU suggérait qu'il fallait au minimum 250 kilowattheures dans les milieux ruraux par famille par an. Il faut de l'électricité la nuit, en particulier dans les maisons, pour que les enfants puissent travailler.
Il faut une quantité minimum d'énergie.
Alors là, il y a des solutions qui peuvent être locales. De la mini-hydraulique, bon, des grands barrages bien sûr, mais ça coûte cher. De la mini-hydraulique, du solaire, de l'énergie éolienne. Le Maroc est un pionnier en matière d'énergie solaire, avec sa centrale de Ouarzazate.
Dans le sud du pays.
Dans le sud du pays, au sud de Marrakech. Hein. Donc là, il y a un certain nombre de techniques au point, relativement simples qui permettent malgré tout de fournir de l'électricité localement à un village, voire à une ville moyenne. Il faudra aussi, et là j'en reviens à ce que disait Geneviève au début de cette émission, il faut bien aussi faire marcher des voitures. Donc il faut quand même un minimum de pétrole dont par ailleurs disposent les pays africains.
Nous parlons de la transition énergétique dans ces pas du vent aujourd'hui. On se retrouve dans un instant.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Mezi mezi mempensi kura. mezi me fensio, mezi mezi me pensi pra.
Le potentiel hydroélectrique de l'Afrique ne serait exploité qu'à hauteur de 10% environ, mais des projets de barrages voient le jour année après année, notamment en Afrique de l'Ouest et dans les pays traversés par le fleuve Sénégal. Nous sommes en ligne avec Kabiné Camara, ancien Premier ministre de la Guinée et haut-commissaire sortant de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Bonjour Kabiné Camara.
Bonjour, Charlie.
Quels sont les projets de barrages en cours sur ce fleuve Sénégal ?
Le fleuve Sénégal est composé de trois affluents qui naissent tous en Guinée, dans le massif du Fouta-Jallon, et qui donc se rencontrent en territoire malien pour continuer sur le Sénégal, la Mauritanie, et se jeter dans l'océan Atlantique à Saint-Louis, 1830 km. Donc l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui a été créée en 1972, a pour but de, entre autres, pour mettre en valeur l'immense potentiel hydroélectrique de ce fleuve. Alors au jour d'aujourd'hui, on a évalué qu'il y a à peu près un potentiel de 2000 MW dans le bassin. Et il n'y a que deux barrages qui sont exploités actuellement, deux au Mali, c'est-à-dire le barrage de Manantali et celui de Felou. Il y a un troisième barrage de 140 MW qui est en construction. Maintenant, vous posez la question de savoir quels sont les autres projets. Effectivement, nous avons fait une étude d'études stratégiques sur l'ensemble du potentiel du bassin et nous avons identifié quatre barrages à construire. Alors, le troisième en construction, c'est le barrage de Guina qui fait 140 MW. Et dans le bassin guinéen, trois sites qui font à eux seuls 600 MW. Donc le plus gros est le barrage de Koukoutamba qui fait 300 MW. L'appel d'offres est lancé.
Et en 2015, par exemple, deux tiers des Guinéens n'avaient toujours pas un accès continu à l'électricité. L'enjeu de la production d'électricité est très important dans la sous-région.
Oui, la Guinée est un paradoxe. Vous savez que c'est le château de l'Afrique de l'Ouest. Il y a à peu près 1200 cours d'eau qui naissent en Guinée. Il y a un potentiel qui va entre 6000 et 10000 MW qui n'est exploité qu'à 3%. Donc la Guinée a lancé actuellement un immense programme d'investissement dans le domaine de l'hydro. Et en 5 ans, la Guinée a doublé son potentiel de production qui est passé à peu près de 200 à 440 MW avec le lancement d'un grand barrage qui s'appelle le barrage de Kalita. Et dans la foulée, et c'est très important, la Guinée vient de lancer la construction du plus grand barrage de l'Afrique de l'Ouest qui s'appelle le barrage de Swapiti qui va faire 554 MW. Dont une partie de la production est prévue d'être exportée sur le Sénégal, le Mali et d'autres pays. Et pourquoi ceci sera facilité ? C'est parce qu'il y a des lignes d'interconnexion qui sont maintenant en chantier, dont l'une des plus importantes est mise en valeur, est mise en œuvre par le bassin du fleuve Gambie. Et cette ligne va relier la Guinée avec la Gambie, la Guinée-Bissau et le Sénégal.
Et avez-vous le sentiment qu'on a pris conscience du potentiel hydroélique qui existe dans la sous-région ?
Alors, ce qui est intéressant actuellement de savoir, de noter, c'est que tous les pays de la sous-région se sont engagés dans la valorisation rapide de leur potentiel hydroélectrique, que ce soit la Guinée, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, que ce soit le Togo, que ce soit le Ghana. Il y a de grands projets de barrage en construction dans tous ces pays actuellement. Je peux vous dire que même le Niger a réveillé son barrage de Kadagi, qui était à l'arrêt depuis un certain temps. Et le Mali même, sur le fleuve Niger, au niveau de Gao, a lancé le projet de construction du barrage de Taoussa. Donc réellement, il y a une immense prise de conscience dans la sous-région pour valoriser le potentiel hydroélectrique.
Et vous avez le sentiment que cette hydroélectricité sera l'avenir de l'énergie dans cette région de l'Afrique ?
Il n'y aura pas que l'hydroélectricité qui sera l'avenir de l'énergie dans la sous-région. Il faut savoir que la région bénéficie d'un grand potentiel d'ensoleillement et d'un grand nombre de jours de soleil par an. Donc l'énergie solaire est actuellement aussi très, très, très à la mode. Et il y a même la Banque mondiale qui est en train de lancer une étude pour déterminer les différents sites potentiels et lancer des financements privés. Et au solaire, il faut ajouter aussi l'éolienne. Un pays comme la Mauritanie est en avance dans ce domaine. Elle a déjà deux projets en cours, dont un est déjà terminé. Et le fait de Nouadhibou jusqu'au sud de Nouakchott, vous avez des vents continuels qui permettent de produire de l'énergie éolienne à bon marché. Le gaz qui vient en grande force parce que de plus en plus, il faut compter désormais sur le Sénégal et la Mauritanie qui viennent de faire une immense découverte de gaz offshore à côté de Saint-Louis, à la frontière exactement entre les deux pays. Donc je dirais que l'hydro, le solaire, l'éolienne et le gaz. Voilà l'avenir de l'énergie dans l'Afrique de l'Ouest actuellement.
Merci, cabinet Comara. Je rappelle que vous êtes ancien Premier ministre de Guinée et puis haut-commissaire sortant de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Pierre Papon, quels sont les avantages de l'hydroélectricité et notamment, on en parle sur le continent africain?
L'hydroélectricité, c'est une énergie qui est, je dirais, moins intermittente que l'énergie solaire et que l'énergie éolienne. La nuit, par définition, les panneaux solaires photovoltaïques ne donnent pas d'électricité. Alors on peut stocker, ça c'est un problème général qui n'est pas propre à l'Afrique. Donc ça, c'est quand même une énergie facile à utiliser, stockable, je dirais naturellement, dans le lac d'un barrage. Et ça, c'est quand même un des gros avantages. Donc je suis d'accord avec le diagnostic là, qui vient d'être porté. Et on peut mettre, si je puis dire, en Afrique, quatre fers au feu. J'en mettrais peut-être un cinquième avec les déchets agricoles pour faire des biocarburants comme substitut au pétrole. Je dirais, j'en mettrais un petit cinquième, si je puis dire. Parce qu'il ne faut pas aussi que ces cultures utilisées pour faire des biocarburants se substituent à des cultures à usage alimentaire. Ça, c'est un des gros problèmes, notamment pour l'Afrique.
Geneviève va faire une creusée.
Alors, c'était très intéressant de l'écouter et la façon dont il a rajouté le gaz. Alors, le gaz de toutes les énergies fossiles, c'est celle qui est la plus acceptable. Parce qu'à intensité carbone décroissante, le charbon à proscrire, le pétrole le plus vite possible. Et le gaz, on comprend que parfois, il peut faire partie de l'équation de cette transition énergétique. Mais l'hydroélectricité est certes très intéressante. Le continent africain est sous-équipé. Mais ça suppose, bien sûr, d'énormes travaux d'infrastructure. Donc, déjà dans des pays où les infrastructures, les routes ne sont pas construites. Donc, on est dans des logiques parfois de déforestation, de déplacement de population, avec des impacts environnementaux qui peuvent être très importants pour des pays qui sont déjà fragiles et vulnérables. Donc, on ne pourra pas non plus construire des barrages partout. Mais vous savez, l'énergie miracle, elle n'existe pas. Quand j'ai parlé du pétrole, le pétrole, c'est l'énergie miracle parce qu'on fait absolument tout avec le pétrole. Mais après, si on doit tirer un trait sur le pétrole, à chaque forme d'énergie, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, chaque fois, on doit arbitrer. Alors, comme a dit Pierre, l'intermittence, oui, avec l'hydraulique, l'hydroélectricité, eh bien, qu'est-ce qui stocke mieux l'électricité qu'un barrage par nature? C'est quasiment un stockage d'électricité. Mais on voit bien que aussi, l'éolien et le solaire, ça permet aussi de décentraliser l'accès à l'énergie dans des villages très éloignés qui n'y auraient pas accès ou qui devraient attendre encore des années pour y avoir accès. Donc il faut absolument jouer toutes les cartes parce que le développement de l'Afrique, s'il se fait exactement comme le développement des autres pays industrialisés, l'Afrique qui est très peu contributrice d'émissions de gaz à effet de serre, c'est un petit 5% à l'échelle mondiale, là ça pourrait exploser. Donc il faut absolument encourager toutes les solutions et peut-être que ces arbitrages sur l'impact ou l'impact environnemental doivent être mis aussi en regard avec l'urgence de rendre l'Afrique moins dépendante des énergies fossiles.
Il faut diversifier le mix énergétique du continent africain et des pays du Sud de manière générale.
Il faut diversifier, je dirais que c'est un peu un pragmatisme général qui vaut pour l'Afrique comme pour l'Europe et pour la France. Alors, j'ajouterais juste peut-être un point aussi important. L'énergie, c'est bien sûr le bien-être, mais le bon usage de l'énergie est aussi très important pour la santé publique. Et en particulier en Afrique, l'usage, je faisais allusion au biocarburant, mais l'utilisation pour faire du feu, disons d'énergie domestique, de déchets agricoles, de paille, etc., a un impact très important, négatif sur la santé. Un colloque a été organisé récemment à Abidjan sur ces questions-là par l'Institut Afrique Monde, sur ces questions de santé publique liées au mauvais usage des énergies par la pollution atmosphérique qui cause des décès prématurés par, maladies respiratoires.
Et il y a un enjeu très intéressant aussi dans le fait de promouvoir des énergies, l'énergie sur une palette variée. C'est aussi l'enjeu de la formation, de la création de valeur et des métiers et des compétences. Parce que le pétrole, finalement, ça apporte peu d'emplois dans les pays. Mais si vous, vraiment vous vous lancez dans une politique diversifiée avec tout ce panel d'énergies renouvelables, et si vous formez vos plus jeunes à l'entretien, à la maintenance, là, vous créez aussi des métiers qui ont une vraie valeur ajoutée, qui ont une vraie utilité sociale. Il faut aussi penser aux emplois de demain qui vont être créés autour de l'électrification et de l'énergie, des énergies renouvelables en Afrique. Et ça, c'est aussi un signe d'espoir. Il ne faut pas uniquement penser en termes de kilowattheure, il faut penser en termes aussi de confort, de santé, comme l'a dit Pierre, mais aussi de formation et d'espoir d'emplois qualifiés pour cette jeunesse.
C'est tout l'enjeu de la croissance verte. Pierre Papon, à quelle échéance peut-on prédire la transition énergétique dans les pays du Sud ?
C'est difficile à dire, mais disons quelques décennies. Quelques décennies.
Faudrait être patient.
Il faut être patient. Comme disait ou faisait dire Cervantes à Don Quichotte, il faut donner du temps au temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut attendre pour prendre des décisions, mais qu'il faut investir. Il faut investir pour créer des infrastructures, faire de la recherche, de l'éducation, de la formation, comme vient de le dire Geneviève. Et puis aussi pour les pays africains, il faut bien quand même qu'ils s'équipent parce qu'ils ont un sous-équipement, une sous-compétence. Consommation d'énergie et qui est un obstacle au bien-être. Donc, disons 20 à 30 ans au minimum. Au minimum.
Merci à tous les deux, Pierre Papon, Geneviève Ferron-Creuset, d'être venus dans notre studio de la RFI.
Merci
à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde de cette émission. Et merci à vous qui nous avez suivis. Demain, nous parlerons de l'industrie textile, polluante et critiquée pour les conditions de travail qu'elle peut imposer. Alors, peut-on rêver d'un monde où cette industrie sera éthique ? La réponse, ou en tout cas des pistes de réflexion, demain. Même planète, même heure. À demain.